Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme. Intégrale Coupe du Monde.
Ah, superbe, superbe Franck Leboeuf. Ah ça, oh, un petit passement de jambes, comme avait fait Match d'air.
Oui, mais beaucoup plus dur. Hein.
Beaucoup plus difficile. Ah, cette volée. Ah, il est beau. Hein.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Rotten sans flamme, magnifique émission qui s'annonce. On est bien sûr toujours en mode Coupe du Monde, et plus que encore que tous les jours depuis le début de la Coupe du Monde. Pourquoi ? Parce qu'on est à 24 heures du premier choc, du premier quart de finale, France-Maroc. Ah, il y en a un qui trépigne de je sais pas quoi, peut-être de joie si la France gagne, c'est Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous.
Salut Benoît.
Ah, c'est long là, et tant qu'il arrive ce match, là il y en aura le bol.
C'est fou, il n'y a pas de match aujourd'hui, ça nous manque.
Ouais, ça nous manque, bien sûr. Bah, oui. Dans la Coupe du Monde, forcément. Oui. RMC, c'est la radio officielle.
Et on est les premiers à se plaindre parce qu'il y a des matchs à 3h, à 5h, et là c'est fini et ça nous manque. On est avec. Lui, ça fait longtemps que.
Ah, il est à la maison.
Hop, il est rentré à la maison.
Il est en taquette.
On l'a récupéré, il s'est converti à la France. C'est Soulé Diawara. Salut Soulé.
Salut Soulé. Salut les amis.
Il a toujours été français, Soulé. Toujours.
Toujours. Et il est international sénégalais quand même.
Ah oui, oui, oui.
Donc, on a une pensée pour tous les Sénégalais.
Bien sûr.
Vous nous manquez à la Coupe du Monde.
Ouais. C'est dur. Hein. Ça a été dur. Hein.
Ouais.
Mais bon, il n'y a pas de hasard dans le football.
Écoute, il n'y a pas de hasard.
Exactement.
Il n'y a pas de hasard. Et Eric Dimeco le sait bien. Ah. Salut Eric.
Salut Jérôme. Salut Soulé. Salut Benoît.
Salut
à tous. Comment ça va, mon Soulé? Ça va bien.
Eric a vaincu en équipe de France, capitaine, tout ça. Quoi. Quelle carrière, ce Eric Dimeco. Plus grande légende de l'histoire de l'OM. Ouais. Ça, quoi. Vous connaissez Eric, quoi. Voilà.
Mmh. Et alors, je dois répondre un truc à ça. Je dois dire un truc à ça.
J'adore la réaction.
Ouais. Tu as le droit de nous survendre. Hein. Tu as le droit.
Hein. Eric.
Eric, on a une autre légende.
Ah ouais, un acteur d'Hollywood.
Alors, légende du théâtre maintenant. Mais oui, c'est Francky Leboeuf. Salut Francky.
Bonsoir messieurs, bonsoir Eric, bonsoir Soulé, bonsoir Benoît, bonsoir Jérôme et bonsoir à tous les auditeurs.
Comment ça va?
Ça fait plaisir de revenir à la maison un peu.
Ah non, plaisir partagé. On a un acteur hollywoodien avec nous dans Rotten Sans Flamme.
C'est vraiment une chance.
Si on a le droit de mentir aussi dès le début, ça va pas faire.
Ah oui.
Non.
Bah t'as vu ce qu'on a dit sur Eric, on a le droit de mentir.
Ouais.
Là, c'est plus survendre, c'est mentir, comme je dis.
Francky, tu es là parce que. Contrairement à une certaine époque, tu regardes tous les matchs de la Coupe du Monde, Francky. Tu es consultant ESPN.
Mais donc, c'est vrai ça en plus.
Francky, tu n'as pas le droit de te laisser parler comme ça. Oh, ça va pas.
Ouais, mais non, le problème, c'est que je peux pas mentir, moi, sur ce coup-là. C'est vrai, il a raison. J'en pouvais plus des matchs de Champions League, avec RMC et tout ça. Et c'est vrai que je regardais un match sur trois. Mais la plupart du temps, c'est ce que je fais. Je ne regarde pas la première période. J'écoute les interventions des commentateurs juste avant la mi-temps. Et je regarde que la deuxième. Période parce que j'en peux plus du football maintenant.
Et voilà, crack. Mais au moins là, t'es concentré, tu as tout vu et tu vas
prendre les gamelles. Sur, je connais
sur
tout
cette
sur
Coupe
tout,
du Monde 2026.
Ouais. Tant mieux, tu vas nous éclairer un peu.
Exactement, un grand programme. Dans Rotten sans flamme, on est en direct d'ailleurs de la brasserie Flora.
Un peu plus que Yuri Djorkaeff hier.
Et ouais, ça, c'est vrai.
Ah ouais.
Moi, c'est Yuri qui est venu sur.
Ah, mais il peut pas parler lui avec la FIFA et tout ça. Il peut pas.
Ah non, ça c'est sûr qu'il peut pas parler. Hein. On l'a vu, on l'a entendu en tout cas.
Ouais. Interview à retrouver sur rmcsport.fr. Grand programme, je vous le disais, on va beaucoup parler de ce France-Maroc demain 22h sur RMC. Est-ce que le Maroc est un candidat crédible à la victoire finale? Ce sera le thème de Rotten se chauffe à 19h avec un invité, un ami de Soulé Diawara, un homme que vous connaissez tous bien. Nasser Larguette sera avec nous. Il est aujourd'hui vice-président du Stade Malherbe Caen. Il était ancien DTN de la Fédé marocaine. Ouais. Il était à la création de l'Académie Mohamed VI. C'est lui qui a lancé toute cette génération de Marocains. Donc Nasser Larguette avec nous. Dès 19h. À 18h30, le procès des Argentins, Jérôme. On va accuser les Argentins d'être trop friables pour aller au bout. On a suivi le match dans Rotten sans flamme sur RMC. On a vibré, on a dit ça y est, les Argentins sont dehors. Et on a crié un peu trop vite parce que.
Non, déjà, on n'a pas crié. Toi, t'as crié, t'as commencé à chanter.
Comme Manu.
Non, et c'était mal barré, mais on n'était pas contents pour autant.
Ah si,
on était contents.
Ah bon, si, on était contents de les voir dehors.
Non, moi je préfère les rencontrer et qu'on les tape, et là je serai encore plus content.
Bon, en tout cas, on parlera de
finale,
tout à l'heure à
19h. Ça va être bon.
France-Argentine, ça va être magnifique.
Et d'ailleurs, On parlera du fait de ce match à 19h30, la VAR de Roten sans flamme. Est-ce que les grandes équipes sont encore favorisées par l'arbitrage? Parce que vous avez vu la colère égyptienne après la victoire de l'Argentine. Voilà, un but refusé injustement pour les Égyptiens. Et ce troisième but argentin qui aurait pu être refusé.
On a vous avez vu le ralenti, vous, sur la faute sur Salah? On n'en a vu qu'un hier ralenti.
Ouais, bah là, on l'a revu un peu. Bon, il n'y a pas une énorme faute.
Ah, mais il lui marche
c'est
sur
plus
le pied,
contestable sur le but de la seconde, début de seconde période, hein, quand les Égyptiens menaient 1-0. Hein. Et qu'il a fallu traverser tout le terrain pour aller marquer ce deuxième.
Bah, c'est le même genre de faute, sauf qu'il y en a une qui est au milieu du terrain et l'autre qui est dans la surface et qui doit donner pénalty.
Voilà, on en débattra tout à l'heure. On aura aussi un invité, tiens, à 18h45, Younis Abdelhamid, ex-capitaine du stade de Reims, aujourd'hui capitaine du phare Rabat. Il nous parlera de la ferveur au Maroc, justement, avant ce France-Maroc de demain, 22h. Filons également à Wimbledon, retrouver Eric Salio parce qu'on a un franco-britannique. Il est malheureusement sous l'Union Jack pour disputer ce Wimbledon. C'est Arthur Ferry qui est face à Koboli. Salut Eric.
Salut à tous, effectivement. Et Arthur Ferry livre un match magnifique. Il est tout simplement à 1-7 d'accéder aux demi-finales de Wimbledon. C'est incroyable. Notre ami Flavio Koboli est en train de couler à pic. 6-4, 7-6 pour Arthur Ferry, donc dans ce match palpitant sur le center court. Et je suis sûr que 80% des gens dans le central ne connaissaient pas Arthur Ferry avant d'acheter leur place. Et puis, il se profile en plus une éventuelle demi-finale contre Sacha Zverev, puisque l'Allemand mène 2-0. Ça aussi, c'est une surprise face à Taylor Fritz. 6-4, 6-4.
Merci Eric. 18h06, Roten sans flamme sur RMC. Tout de suite, notre ami Francky est subjugué par le niveau des Bleus. Écoutez.
Salut, c'est Franck Leboeuf.
Papé, la prise d'élan, la frappe.
Alors là.
Par contre, là, la frappe et le but.
Il fait partie des trois meilleurs joueurs au monde, enfin des trois joueurs que tu viens voir.
La frappe de Papé. Oh, quel but.
Bah, dis donc, vous avez des stars internationales.
Dembélé, la frappe.
Vous voulez savoir combien vaut votre voiture ?
Papé la frappe ! Wouah ! Il l'a fait !
Vu le fait que les joueurs soient les ses meilleurs joueurs, enfin en tout cas les trois dans le groupe.
Allez Kylian, le passement de jambe ! La frappe ! Et le but !
Je suis chaud bouillant.
Ousmane Dembélé qui va rentrer dans la surface de réparation, lancer la fin de frappe, la frappe du droit !
On n'ira pas à la Coupe du Monde pour être favori, on ira pour écraser tout le monde.
Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire ?
RMC intégrale Coupe du Monde.
C'est pas qui ?
Il y a toujours pas la prescription chez vous, ça
n'existe
pas.
Non, jamais, au contraire.
Ah non,
tu peux m'aider ? Je dois vendre la 208 de ma belle-mère, ouais, tu voilà. Peux m'aider, Francky ?
Ah, mais écoute, je les demande tous les jours, je rappelle aux gens que je ne fais que la pub. Hein. Je
ah, d'accord.
Oh merde.
Alors Franck, vois-le comme un hommage parce qu'on est vraiment ravi que tu sois avec nous jusqu'à 19h. Donc franchement, c'est un plaisir de t'accueillir.
Je sais chez qui je tombe, hein, c'est pas non plus.
Tu viens avec le sens de cause.
Il est là, c'est pas chez Bernard Pivot. Hein.
Non, mais je m'en doutais bien que j'allais morfler à un moment donné. Mais c'était le début, quand même, c'est dur. Mais bon,
ça. Ouais, parce qu'il faut qu'on renouvelle les pépites. Donc pendant une heure, on est sûr de faire l'année comme ça.
Et Francky, rassure-toi, c'est que le début. Hein. Non, je plaisante.
Oui, je m'en doute. Bon.
Demain, c'est France-Maroc, ce quart de finale de la Coupe du Monde à Boston. Match à suivre dès 22h sur RMC. Cette équipe de France impressionnante, hein, 14 buts inscrits, co-meilleure attaque avec l'Argentine, 5 victoires en 5 matchs. Et demain, c'est le remake de la demi-finale de 2022. On avait battu les Marocains 2-0. On rappelle qu'en cas de qualif, les Français affronteraient le vainqueur de Belgique, Espagne. Florent Germain nous rejoint. Salut Flo.
Salut Benoît. Salut à tous.
Salut Flo.
Flo, à la conférence de presse de Didier Deschamps, parce qu'il est venu seul, sans joueur, parce que c'est toujours un voyage, une itinérance un peu compliquée à mettre en place pour le staff des Bleus pour venir vous parler avant les matchs. Il n'y a pas grand-chose à en tirer, malheureusement. Il a été assez fermé, Didier Deschamps, sur cette conf. Hein.
Oui, c'est typiquement le genre de conf de veille de match où peut-être un sélectionneur comme Deschamps est déjà dans sa rencontre. Alors, les infos à retenir, c'est que le carton jaune pour Michael Olysée a été confirmé. Donc, il jouera avec cette menace le match contre le Maroc, Michael Olysée. Tchouaméni va mieux. D'ailleurs, selon nos infos, il serait apte à jouer, mais on a du mal à imaginer les Bleus prendre le risque de le titulariser. Donc la tendance reste à ce que Tchouaméni soit sur le banc, préservé, et qu'on espère le récupérer à 100% pour une éventuelle demi-finale. C'est évidemment tout ce qu'on souhaite. Après, les petits moments de coulisses sont venus notamment de nos confrères marocains. matin, puisque le match a commencé médiatiquement, on va le résumer ainsi, avec le sourire, notamment avec une question d'un confrère qui est revenu avec insistance auprès de Deschamps sur un supposé pénalty en 2022 sur Boufal. Écoutez cette séquence, les Marocains n'ont pas oublié.
Si on revient un peu en arrière au match de 2022,
on peut pas.
Parce qu'il y avait des fautes d'arbitre, est-ce que cela peut causer un impact négatif sur ce match?
Il n'y a pas des fautes d'arbitre. Les fautes, c'est les joueurs qui les font.
La faute de Boufal, monsieur l'entraîneur.
Dans tous les matchs, il y a certaines situations qui peuvent amener à discussion. Tout dépend de quel côté on est. Tout dépend de pour quelle équipe vous êtes. Et vous voyez certaines fautes plus dans un sens que dans l'autre. Oui, ça peut se siffler, mais si c'est pas sifflé, aujourd'hui, c'est pas spécifique. Et c'est pas en revenant en arrière. Ce qui s'est passé, c'est passé. On peut rien y faire. Il n'y a pas de revanche dans le football.
Voilà, pas de revanche dans le football, mais par contre des journalistes marocains un peu vexés, et Didier Deschamps a gardé son calme parce que en fin de conférence de presse, écoutez, certains confrères se sont levés et se sont plaints de ne pas avoir eu assez de questions à poser aux sélectionneurs, et du coup ça a donné ça en termes d'ambiance.
Next press conference today will be 6:45.
On a pas.
Thank you.
Non, il y a les Marocains. On va faire une dernière question. Ah, on va prendre une dernière question. Mais vous avez
je suis désolé, j'ai un peu de route aussi pour rentrer. J'ai un déjeuner, il y a un entraînement. Je sais bien, monsieur, mais moi je suis parti très tôt et j'ai un entraînement à m'occuper.
Il y a eu des questions aux journalistes marocains. Donnez une question, monsieur.
Vous êtes combien?
Voilà, c'était un peu chaud, le match il est lancé.
Ouais, le match
conférence
lancé,
de presse
oui,
où ça s'est levé, ça s'est un petit peu expliqué, voilà. Il y avait un petit peu de tension dans l'air, donc le match a été lancé, pas une conférence de presse où Didier Deschamps a donné beaucoup d'infos, mais on a senti en coulisses que il suffisait d'une petite étincelle pour que le France-Maroc soit explosif demain à Boston.
Merci Flo, c'est la une de Rotten sans flamme. Sortir avant la finale, est-ce que ce sera un échec pour l'équipe de France 32-16 pour participer avec nous, Jérôme?
Écoute, Benoît, je vais répondre à la question. Oui, ça serait un échec pour moi si la France n'allait pas en finale de la Coupe du Monde. Parce
ça veut dire passer deux tours, hein, le quart et la demi contre
l'Espagne. Parce que comme toute équipe qui est favori avant une grande compétition, quelle que soit la compétition, si elle va pas jusqu'au bout, alors je te dis pas de la gagner, parce qu'une finale, on sait tout ce qui peut arriver, les scénarios sur un one shot, sur un match coup près, tu peux la perdre la finale et pour autant être favori de la compète. Donc, ne pas aller en finale, oui, serait un échec pour l'équipe de France. L'objectif, il n'est pas comme le président de la Fédé a donné à l'équipe ou aux sélectionneurs, c'est-à-dire dans le dernier carré. Ça veut rien dire, ça. Quand tu es une équipe de France qui a gagné l'avant-dernière Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde, on a fait finaliste. Et on a perdu, on le sait, au tir au but contre l'Argentine. Bien sûr que on a envie de faire jamais 203 et de retourner en finale. Et que si tu te fais éliminer en quart ou en demi, tu ferais moins bien que les deux dernières coupes du monde. Donc forcément, c'est un échec quand tu as dans ton effectif le Ballon d'Or, deux ou trois joueurs qui sont potentiellement des futurs Ballons d'Or, que tu as à certains postes les meilleurs joueurs du monde, à commencer par les deux centraux. On est tous unanimes pour dire que Upamecano et Saliba font partie des meilleurs défenseurs au monde. On a un gardien qui l'a été, qui l'est moins, mais qui peut être décisif et qui peut élever son niveau. On a un banc aussi qui peut prendre le relais de certains ils sont moins bien. Donc automatiquement, à tous les niveaux, on est l'équipe qui dégage le plus de force depuis le début de la compétition. Donc si tu vas pas au bout, oui, c'est un échec. Mais là où, et je vais laisser répondre Soulé, Eric et Francky, mais là où moi je t'en veux un peu, Benoît, d'avoir fait ce thème-là, non, se poser cette question-là, c'est que pour moi, cette question, elle est négative. Moi, j'ai envie d'être dans le positif pour cette équipe de France, qu'elle montre depuis le début de la compète, avec beaucoup de caractère, de personnalité, beaucoup d'humilité aussi, parce qu'on l'a vu sur le dernier match contre le Paraguay, et beaucoup de force, offensive, spectaculaire, cette équipe sur les premiers tours. Et je mets de côté le premier match contre le Sénégal, au moins, du moins, la première heure contre le Sénégal, parce qu'en effet, c'était pas exceptionnel. Mais le reste du temps, on a été une machine. Une machine. Et ils ont pris le relais. Kylian Mbappé, Dembélé, Olise, et puis les autres aussi derrière, si tu veux, sont montés en puissance. Ils dégagent tellement de force. Et ce côté spectaculaire qu'on découvre un petit peu avec Didier Deschamps et cette équipe de France, que j'ai envie, moi, d'être très positif sur le jeu qu'il déploie et qu'il nous montre. Et je te dis, je mets de côté le match du Paraguay, mais aussi l'état d'esprit. Pour moi, à l'image de Kylian Mbappé, et vous savez tout l'amour que j'ai pour Kylian, avant la compète, je trouve que là, il est vraiment dans son rôle. Il a beaucoup parlé avant la compète. Moi, je lui en voulais sur certains trucs. Là, il assume. C'est un leader. Il pousse les autres. Il a un comportement exemplaire à l'image de ce que il a subi et comment il a réagi contre le Paraguay. Écoute, il emmène les autres. Je trouve que tout ça fait que cette équipe, elle est très sympathique. Elle est agréable et on a envie d'être, et on a envie de la soutenir. Donc, moi, j'ai envie d'être positif et j'ai pas envie de parler d'un éventuel échec.
Okay.
J'ai juste envie de parler d'une éventuelle finale parce qu'on a totalement les moyens d'aller jusqu'au bout.
Francky, est-ce que tu nous vois au-dessus des autres sélections qui sont encore en lice?
Complètement. Je vais la faire simple et concis. C'est complètement un échec, ou on va dire une grosse déception si la France gagne pas la Coupe du Monde. On fait peur à tout le monde. On a une machine de guerre, toute cette équipe, bien sûr ceux de devant, mais vous t'as cité William et Dayo, et je trouve que c'est bien de le faire parce qu'ils sont monstrueux depuis le début de la compétition, comme la plupart des joueurs de l'équipe de France. Mais c'est vrai que quand tu discutes, moi j'ai la chance de travailler avec des gens, des étrangers, que ce soit anglais, américains et de tous les pays, ils te disent c'est pas possible, on peut pas jouer contre cette équipe, elle est injouable, elle est trop forte. Le Paraguay a essayé quelque chose qui était pas très fair-play, ça n'a pas fonctionné non plus. Mais à comparer avec les autres équipes, on est très au-dessus. Maintenant, le seul ennemi de l'équipe de France, c'est l'équipe de France. Si les joueurs pensent qu'ils vont la gagner, là, ils vont être surpris. Mais si ils jouent comme ils ont joué, comme ils nous ont montré depuis le début de la Coupe du Monde, et Jérôme, tu as raison, peut-être après l'heure passée contre le Sénégal, il n'y a personne qui peut les toucher. C'est pas possible. Ils ont la mentalité qu'il faut en ce moment, bien sûr, toutes les qualités. Donc, je fais confiance à cette équipe pour parler jusqu'au bout.
Eric, toi, tu es moins confiant que Francky et Jérôme, hein?
Ah non, c'est pas une question de confiance. Je c'est bizarre quand même que on parle de résultat final comme objectif et on parle pas de jeu et on parle pas de qualité de jeu. Et c'est bizarre parce que ceux qui parlent de résultat final nous parler de jeu quand l'équipe de France soit de gagner, soit aller au bout en disant ouais mais on se régale pas en regardant l'équipe de France, ouais mais il y avait toujours les bémols. Et là c'est bizarre parce que on parle d'objectifs très élevés. Moi je pense que être dans le dernier carré c'est le minimum syndical, mais quand tu fais une demi-finale contre l'Espagne tout peut se passer. Et si tu sors, parce que il faudra voir de quelle manière tu sors. Voilà, et pour le moment, on se régale en regardant jouer cette équipe de France. Il n'y a pas de raison que ça change. Et si tu sors contre l'Espagne ou que tu gagnes pas la Coupe du Monde contre l'Argentine en ayant fait un gros match, et ça se joue sur un coup de dé comme beaucoup de matchs en ce moment, hein, quand vous regardez un petit peu ce qui se passe, les matchs sont super serrés et ça se joue souvent sur un exploit individuel, un coup de chance, un coup de l'arbitrage. Et donc, on balayera tout ça. Sur l'hôtel du résultat, alors qu'on nous expliquait quand ça gagnait que ouais mais on s'ennuie quand on regarde l'équipe de France et on minimisait toujours les résultats de l'équipe de France par rapport au jeu. Et donc là c'est quand ça vous arrange, quand ça vous arrange le jeu. Donc
pourquoi tu dis quand ça vous arrange, ça veut dire que
Jérôme tu fais partie des gens qui mettaient toujours des bémols sur les victoires de l'équipe de France parce que la qualité de jeu,
il y en a eu qu'une en 2018.
Non, les victoires en général, les grandes victoires.
Non mais parce que moi je retiens aussi et j'ai peut-être dit des bêtises, mais en 2018 j'étais un des rares à défendre l'équipe de France et les résultats et la façon de fonctionner. Alors ne me dis pas, c'est un faux procès que tu me fais.
Écoute,
en fait, moi je suis pas moi, Christophe Dugarry. Si
j'ai pas de l'objectif de la gagner. Moi je suis comme Francky. Je crois que tout le monde est d'accord que sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, l'équipe de France est la plus forte, la plus équilibrée, avec une mentalité qu'on n'avait pas vue peut-être ces derniers temps. Et on a l'air d'être au-dessus de ce que j'ai vu de l'Espagne, de l'Argentine depuis le début de la compétition. Sauf que c'est pas un gage de victoire finale. Et ensuite, les autres, ce sont des quand on va arriver en demi-finale, ce sont des grandes équipes qui sont programmées pour gagner elles aussi. Donc on verra comment on gagne ou comment on perd.
C'est pour ça que je me suis permis de dire que c'était pas forcément un échec, mais ce serait peut-être une déception, parce que tu as raison, tu peux perdre en jouant bien. Donc voilà, un échec, c'est lourd comme définition.
C'est un grand moment pour moi, cette équipe, avec tout le talent offensif qu'on connaît, l'état d'esprit qu'ils ont affiché depuis le début de cette compétition. Ils ont un titre aussi de champion du monde aussi à défendre. Sortir avant la finale, je pense que... Je dirais que ce serait plus une déception, comme vous l'avez dit. Mais le mot échec, je pense que c'est un grand mot parce que... Voilà, le mot est fort parce que tout simplement, moi je dis toujours, il y a toujours une marge entre la victoire et la défaite. Vous voyez ? Donc il peut s'agir d'un fait de jeu, un pénalty.
Ah oui, ça c'est sûr.
Une prestation,
il y a la manière
de perdre aussi, c'est voilà, sûr. Il y a cette
manière-là.
Oui, mais
tu perds quand même. Hein.
Non, mais ouais, tu perds, je suis d'accord avec toi. Mais voilà, la France, c'est vrai qu'elle doit viser cette finale. Ça, tout le monde le sait. Voilà, c'est clair. Mais demain, si elle tombe sur un grand soir, un grand Maroc.
Ah oui, oui. Tout peut arriver. Hein.
Un Espagne qui se réveille.
Attention, ils jouent la Belgique, l'Espagne. Hein, ils ne sont pas encore qualifiés. Hein.
Et l'Espagne n'a pas fait un très grand match pour le moment. Hein.
Ouais, non, mais voilà, mais je veux dire, s'il tombe sur un grand Maroc, je pense.
Oui, mais regarde,
ce serait un échec.
Ce serait juste le football.
Ah ouais.
Mais parce que le Maroc, en ce moment, on peut dire ce qu'on veut, pour l'instant.
C'est une très belle équipe.
Impressionnant, moi, ouais. Pour moi, pour l'instant.
Mais est-ce qu'ils sont plus impressionnants que la France?
Non, pas. Moi, pour moi, la France sont beaucoup plus impressionnants.
Donc ça voudrait dire que
si la France, sur un match, tu sais comment ça peut
être. Oui, mais bien sûr.
Ils peuvent être plus impressionnants sur un match, demain. Que tu vois le reste de la compétition, la France a été impressionnante depuis le début de cette compétition. Voilà.
Et mais là, on joue un peu.
Je dis, attends, excuse-moi, Jérôme.
Vas-y.
Moi, je dis juste pourquoi le Maroc, je dis, elle est impressionnante parce que faut regarder aussi l'adversaire du Maroc et les adversaires de la France entre guillemets. Quand tu regardes le Maroc qui a tenu, même si c'est pas le grand Brésil, mais ça reste le Brésil.
Oui, pendant une mi-temps, ils ont
éliminé les Pays-Bas aussi. Mm. C'est des grosses nations par rapport.
Par rapport
à la France,
ou l'Argentine.
Donc, pour moi, ça ne sera pas un échec parce que le mot échec, pour moi, c'est grand, c'est fort, mais une déception.
Et après, ça
sera une déception, ça, c'est sûr.
Après, on joue un peu sur les mots entre échec et déception.
Parce qu'on a vu début.
Ça se rapproche. Moi, il faut juste essayer parce qu'on a été joueurs aussi et c'est pour ça qu'on est là tous les jours pour donner notre expérience. Mais Franck, par exemple, je te pose la question. Toi qui as fait des Coupes du Monde, tu sors contre une équipe, tu vises la gagne et tu sors contre une équipe, contre le cours du jeu, en effet, et tu sors en quart de finale ou en demi quand tu veux gagner. Et comme objectif, franchement, t'es dans la peau du joueur. Quel que soit ce que t'as fait avant, comme le disait Eric, où t'as été très bon et on est tous là pour le dire, n'empêche que le sentiment que tu auras quand tu vas reprendre l'avion pour rentrer en France, ce sera un échec. Franck.
Oui, bien sûr, je comprends ce que tu veux dire. Au vu du monde et ce que tu auras proposé, ce sera une déception parce que les gens vont dire ouais, ils ont tout essayé, ils ont tapé trois fois sur le poteau et ce sera triste. Ouais. Mais au moins tu auras pas la critique de dire ils ont pas joué, comme cette finale de Coupe du monde l'année dernière, on a joué un quart d'heure. Il y a 4 ans pardon, on a joué un quart d'heure. Mais c'est vrai que tu rentres chez toi et il y a une vraie déception, et tu le considères comme un échec parce que nous sommes des compétiteurs passe avant tout, mais au vu du monde, encore une fois, si tu marques pas parce que t'as tiré trois fois sur le poteau et que ça veut pas rentrer et que le Maroc met un but en contre-attaque, qu'est-ce que c'est le football? Faut accepter les incertitudes du foot.
Et on en reparlera du Maroc à 19h avec Nasser Larguette, l'ancien DTN de la Fédé marocaine, qui sera avec nous. Est-ce que le Maroc est un candidat crédible à la victoire finale ?
Que la France est bien supérieure au Maroc.
On a hâte de l'entendre, notamment sur le dossier des binationaux et de la décision d'Ayoub Bouadi.
Quel taquin, celui-là.
Ça ne le fait pas rire, Benoît.
Mais non, mais moi, non, mais lui, ça y est. Ça, il s'est fait manger le cerveau par sa femme. Ça y est, maintenant, il est marocain.
Ah, d'accord.
Ah, ben sinon, c'est plus que le canapé. Il a dormi aux trois obus, oui, surtout, en bas, le bas.
Soulet, tu peux m'accueillir
J'ai un studio, je suis tout seul, j'ai allé une place.
Là, on peut compter sur les copains.
Je viendrai te chercher parce que hier, je t'ai vu à 4h du mat aux trois obus, là, t'étais pas dans un bel état.
Et au pire, je vais dormir sur la banquette du Florent, là, comme ça va être pas mal, pourquoi pas. Allez, dans un instant, avec Franck Leboeuf, avec Eric Dimeco, avec Soulet Diawara, avec Jérôme, on ouvre le procès des Argentins qui vont être accusés d'être beaucoup
plus. Argentine,
pour aller au bout.
On est là, Messi.
RMC, 18h-20h. Roten sans flamme. Intégrale Coupe du Monde.
Allez, l'occasion de. L'occasion.
Sous la lucarne, sous la transversale dans la lucarne.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h29 sur RMC, on est là, on est bien dans Roten sans flamme, la deuxième demi-heure de Roten sans flamme du soir avec Franck Leboeuf, exceptionnellement, et on le remercie, Franck,
qui est
là avec nous pendant une heure dans Roten sans flamme avec Soulet, Diawara, avec Eric Dimeco, comme d'habitude, avec Benoît Boutron. On est là jusqu'à 20h avec beaucoup de bons thèmes et de bons débats concoctés par toi, Benoît.
Ouais, et on sera en direct du Maroc.
Tout seul l'émission.
En direct de Rabat avec Younis Abdelhamid, l'ancien capitaine du Stade de Reims, à 18h45. Il va nous parler de cette ferveur marocaine.
Tu m'as invité que des Marocains.
Dans un instant, l'ambiance, les Argentins qui étaient en transe après la remontada d'hier. Mais tout de suite, retournons à Wimbledon parce que Arthur Ferry, fils de Loïc Ferry, est qualifié pour la demi-finale. Incroyable, Eric Salio.
Extraordinaire. Le français, j'ai envie de dire le français, parce qu'il nous a tellement régalé cet après-midi. Victoire en 3-7, 6-4, 7-6, 6-0. Il a totalement écœuré Fabio Coboli. Un régal, un jeu de gazon absolument extraordinaire. Et donc, il est magnifique. En demi-finale de Wimbledon et il connaît déjà son adversaire. Enfin, il le sait peut-être pas encore. Ce sera Sacha Zverev qui vient de battre en 3-7 Taylor Fritz, Arthur Ferry. Le petit français né à Sèvres qui joue malheureusement pour les Britanniques. C'est incroyable.
C'est dingue. Et puis, tu avais bien senti parce que hier, tu nous as dit il faut jouer votre maison sur Fritz à l'arrivée. Il a pris 3-7.
Il y a vraiment tous les bons conseils.
Satan Dénito, genou s'est réveillé, Jérôme. Satan Dénito, genou s'est réveillé. Tout s'explique.
Je ne sais pas si c'est lequel des deux a une tendinite.
On vous a dit que c'était un spécialiste. Merci, Eric.
Tendinite au cerveau.
Bravo, Eric.
Allez, accueillons Edgar Grollo qui nous a commenté magnifiquement ce Argentine-Égypte hier. Salut, Edgar.
Salut Benoît, salut Jérôme, salut tout le monde.
Bon, Edgar, t'as vibré autant que nous hier, hein, les Argentins qui étaient menés 2-0 jusqu'à la 75e minute. Messi s'est réveillé. Et toi, tu peux nous raconter le soulagement de tout le peuple argentin au coup de sifflet final.
Ouais, c'est ça. Ils étaient à 10 minutes de sortir de cette Coupe du Monde. Et puis, comme tu l'as dit, Lionel Messi est apparu. En toute discrétion. Non, mais les Argentins, ils ont marqué trois fois en moins d'un quart d'heure, dont un but et une passe D de Lionel Messi qui s'est exprimé à la fin du match.
Ça a été un soulagement pour tout le monde ce qu'il s'est passé. Parce que ce n'est pas facile de remonter à un 2-0, mais on ne baisse jamais les bras. On essaye jusqu'au bout. C'est une folie ce qu'a fait cette équipe. Je suis très heureux que les gens puissent continuer à crier et profiter de ce qu'on réalise. Et j'espère qu'on va continuer.
Et Lionel Messi, il était en larmes au coup de sifflet final. Et son sélectionneur, Lionel Scaloni, l'était aussi. Encore une fois, il n'y a pas besoin de parler espagnol pour comprendre le moment où il craque complètement en pleurs en pleine interview d'après-match.
No puedo levantar la mirada, lo siento. Estoy muy emocionado. Qué grupo de jugadores, hermano.
Il dit, j'arrive même pas à te regarder, désolé, je suis très ému. Quel groupe de joueurs, mon frère. Et j'ai croisé les joueurs et le staff qui rentraient dans le tunnel du stade pour aller au vestiaire. Ils étaient tous en train de chanter ensemble et tu sentais que c'était beaucoup plus qu'un huitième de finale pour eux.
Merci Edgar, magnifique émotion qu'on a ressentie à travers ton sujet. Donc évidemment on suivra le parcours des Argentins et tout de suite on va ouvrir leur procès. C'est parti.
RMC Roten sans flamme.
Moi, sincèrement, je pense que l'équipe de France ne gagnera pas la Coupe du Monde, celle-ci, même si on pense que c'est possible. Elle est peut-être en avance par rapport à l'Angleterre, mais au Qatar, je pense que l'équipe de France peut faire très mal.
Le procès de Roten sans flamme.
On t'a dit que c'était pas fini, Francky.
J'ai le Jean-Pierre Caillot, le président du stade de Reims, me vient de m'envoyer un texto en disant courage.
Ouais. On l'embrasse aussi, Jean-Pierre Caillot.
On l'embrasse très fort. Ah,
on parlait de la Coupe du Monde. Avec
je l'ai très souvent, Jean-Pierre.
Eh ben oui, c'est super.
Contrairement à certains qui l'ont bien zappé. Exactement. Dans le monde du foot. Avec
mais nous, on l'accueille quand même. Tout à fait.
Voilà, donc on lui passe.
Alors allons-y tout de suite.
Extraordinaire, mais c'est bien que certains aient de la mémoire.
Et on va ouvrir ce procès des Argentins accusés d'être beaucoup trop friands pour aller au bout. C'est un peu le scénario de 2022 qui se répète avec des qualifs à l'arrache, mais ils sont toujours là. Ce soir, on a deux procureurs. Jérôme Roten, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Souleymane Diawara, bonsoir.
Bonsoir.
On a un avocat pour les Argentins, c'est Eric Dimeco, bonsoir.
Bonsoir.
Et le juge de ce procès qui rendra son verdict, c'est Franck Leboeuf, bonsoir.
D'accord, très bien, bonsoir.
Jérôme, tu me fais des signes. Tu veux défendre les Argentins, toi ?
Plus, ouais.
Ah, tu veux plutôt défendre ?
Ouais.
Ok, bon, on y va. C'est donc Soulé qui a la charge d'attaquer l'Argentine. Allez, vas-y.
L'habitude que tu me lâches.
T'as vu, oh. T'as vu comment tu peux compter sur lui, Soulé ?
T'inquiète pas.
Elle a lâché un ras de campagne. T'as lâché.
Non, mais Soulé, il n'a pas besoin de moi.
Là, t'as des guerriers.
Eric et Franck, je vous dévoile. Il a 15 fiches. Je peux te dire, avec tout ce qu'il a marqué, il va se démerder tout seul.
Ah non, mais alors, Benoît, je peux changer moi aussi, du coup, s'il a 15 fiches, je peux me mettre exploser.
Bah si tu veux, tu veux changer.
Ouais. Non.
Comme tu veux. Allez, vas-y, Soulé.
Attends, on va lui prendre.
Soulé, tu vas être le meilleur comme d'habitude.
C'était quoi le sujet là?
Il les a perdu les 15 fiches.
Non, mais friable.
Mais non, mais toi, tu me dis que les Argentins peuvent pas aller au bout en jouant
non,
comme ça.
Non, mais
ça
parce que c'est vrai que après les chiffres, elles parlent d'eux-mêmes. À chaque tour, ils galèrent. Ils sont menés, ils passent dans la souffrance. Après, pour une équipe qui vise le back-to-back, tu vois, tu ne dois pas trembler comme ça contre des équipes comme le Cap-Vert, l'Égypte, sans manquer de respect.
Ça te parle le back-to-back. Je vais te l'avoir, le maillot, t'en fais pas.
Voilà, ils s'en sortent encore une fois de plus grâce à un Lionel Messi. Après, moi, comme je dis toujours, Lionel Messi, il a 38 ans, il ne pourra pas tout le temps sauver éternellement cette équipe d'Argentine. Tu vois, je me dis le jour où ils vont tomber sur plus fort qu'eux, où il y a des équipes qui vont réussir à museler Lionel Messi, comment ça va être, tu vois, ils exploseront, je pense, tu vois. Après, voilà, cette Argentine vit sur son statut, sur un homme, et c'est ça peut-être la fragilité, même si pour moi, attention, je dis toujours une équipe qui arrive à gagner, même en tremblant aussi, c'est la marque aussi des grandes équipes. Donc voilà.
Ouais, mais pour l'instant, on va attendre de voir contre une vraie adversité. Quoi.
J'attends parce que c'est vrai que depuis le début de la compétition aussi, ils sont pas tombés sur une grande nation. Si mes souvenirs sont bons. Ouais. Donc voilà. Donc j'attends de voir.
Bravo Soulé, t'as été brillant.
Non, mais je dis ce que je pense.
Oui, c'est vrai. Ouais. Parole à la défense. Pourquoi t'as changé, t'as retourné ta veste?
En fait, je suis partagé, mais je trouve que sur le match d'hier, par exemple,
ouais.
L'Argentine, et on l'a commenté, si tu regardes froidement ce qui s'est passé, bien sûr qu'ils doivent être dehors. Mener 2-0 à la 80e minute, il y a très peu d'équipes qui arrivent à retourner le résultat comme ça en l'espace de 15 minutes. Mais il faut pas oublier, c'est pas parce qu'ils étaient menés 2-0 à la 80e minute qu'il faut oublier tout ce qui s'est passé quand même dans ce match. Il y a eu plein de péripéties contre les Argentins, manque d'efficacité, ils ont eu les meilleures occasions, il faut reconnaître, ils ont eu la possession de la balle, ils ont eu une vingtaine de tirs au but, ils ont eu un pénalty raté. Donc si tu veux, ils sont tombés sur un grand gardien aussi, et c'est pas le premier gardien qui fait des miracles. On se rappelle du gardien du Cap-Vert qu'on avait, on se rappelle du gardien du Congo aussi, gardien de la Norvège contre le Brésil, parce que en fait, ce qui est arrivé aux Argentins, c'est arrivé aux Brésiliens. une équipe qui manque de solidité, mais qui peut se faire surprendre sur un premier but alors qu'il devait marquer. Et rappelle-toi, les Brésiliens, pareil, ils ont raté un penalty. Ils ont des meilleures occasions. Et puis derrière, quand la Norvège marque, ce qui s'est passé hier pour l'Égypte, eh ben c'est sûr que ça renverse un petit peu toute l'analyse qu'on peut avoir sur le match. Donc c'est pour ça que j'ai envie de les défendre, parce que je me dis que leur point fort aux Argentins, c'est le tempérament, l'état d'esprit. T'es renforcé quand tu gagnes ce genre de match, et ça a été déjà le cas contre le Cap-Vert, mais pas dans la même souffrance, parce que là ils étaient à l'extrême quand même. Oui. Collectivement, c'est des liens à vie qu'ils ont. Alors déjà ils les ont avec cette finale de Coupe du Monde gagnée il y a 3 ans et demi contre nous. Mais derrière, ce groupe n'a pas trop évolué, et donc ce genre de victoire fait que tu te dis bon. Écoute, on est difficile à battre. Pour nous retourner, franchement, il va falloir y aller. Et puis après, c'est pour ça que j'ai envie, et je trouve qu'ils sont pas si friables que vous le dites et que le dit Soulé. C'est que sur le match d'hier, je trouve que cette équipe d'Argentine, elle a quand même des joueurs qui transcendent ce groupe, tu vois. Et plus, moi, je les trouve plus encore que sur la Coupe du Monde au Qatar.
Okay.
C'est-à-dire que je trouve que des joueurs offensivement qui existent un peu plus que ils existaient au Qatar, où ils étaient tous derrière Léo Messi. Alors, là, hier, je trouve que sur, même si c'est Messi qui donne la passe décisive et qui égalise, je trouve qu'il y a des joueurs qui ont pris leurs responsabilités
et qui va changer
la personnalité. Donc, je crois encore aux Argentins.
Vas-y Eric.
Donc il a changé de cap pour me bouffer mon temps de parole, si j'ai bien compris.
Mais non, hein, vas-y, t'inquiète pas, on a le temps, t'inquiète pas.
Si tu veux, je vois pas pourquoi les Argentins, qui ont déjà gagné une Coupe du Monde il y a 4 ans comme ça, changeraient aujourd'hui encore et encore plus quand on se rend compte que finalement cette équipe, qui avait pas mal de jeunes joueurs qu'on a découvert il y a 4 ans, avec 4 ans de plus, un Messi. Moi, je le trouve plus fort qu'à la dernière Coupe du Monde, Messi.
Ouais. Il est impressionnant.
Ah ouais. Le but qu'il met, le troisième but qu'il met contre, c'est le premier but contre le Cap-Vert, là, le contrôle qu'il fait, là, sur la balance
Romer, c'est ça? Ouais, magnifique.
Il a toujours.
Après, vous le jugerez peut-être contre les grosses équipes, non? Parce que là.
Justement. C'était un des arguments de Soulé. Sauf que, ils ont un tableau depuis le début ouvert jusqu'à la finale. Et cette équipe-là, si tu les joues en finale, qui que ce soit, la France, l'Espagne, qui encore, puisqu'on va le Maroc,
et la Belgique.
Qui que ce soit qui rencontre l'Argentine, ce sera un défi. Un défi par rapport à la mentalité argentine, par rapport à la force de cette équipe, la force collective de cette équipe. C'est sûr que c'est pas celle que je préfère regarder à la Coupe du Monde, mais ça va être un vrai défi. Donc pourquoi vous pensez que la recette pourrait finir à un moment donné, et pourquoi vous pensez que cette équipe-là ne peut pas le faire? C'est pas possible. Pour moi, ils sont plus forts qu'il y a 4 ans. Voilà. Et pour moi, ils sont.
Il y a 4 ans, Eric, ils n'étaient pas souvent menés. Hein. J'ai pas le souvenir.
Ouais, mais
le
premier match face à la Rabat, il y a 4 ans, c'était dur aussi.
Ils ont été durs, mais ils ont jamais été chaotiques.
Ils gagnent 2-1 contre l'Australie en 8e. Ils gagnent au tir au but contre les Pays-Bas. C'était un match incroyable. Et après, par contre, ils se baladent dans le demi-finale. Ils gagnent 3-0 contre la Pays-Bas.
Et puis, Eric, pour que le juge nous fasse gagner.
On parle.
Non, mais Eric, pour que le juge nous fasse gagner, sur le match d'hier, alors le scénario de folie, ok, mais sur l'ensemble du match, il mérite largement de gagner.
Comment Franck Leboeuf peut donner la victoire à Eric et Jérôme, mais bon, on va voir. Francky, tu te donnes la victoire à qui?
Ah, donc, non, attention, vous n'avez pas le droit d'influencer. Vous êtes neutre, monsieur.
Vas-y, Francky.
Mais, mais les arguments de tout le monde sont très, très bons, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas tombés contre une grande nation, on va dire, du football, même si, n'oublions pas que l'Égypte tient le record en Coupe d'Afrique des Nations de victoire, il me semble, et donc a prouvé ses capacités. Mais en Coupe du Monde, c'est un peu plus dur pour eux. Mais Mais je trouve que moi aussi, j'ai été beaucoup surpris par la solidarité qu'a montré l'Argentine. Et c'est pas possible autrement. Si tu as Messi dans cette équipe, tu es obligé d'avoir des joueurs qui se sacrifient, notamment sur le côté défensif, pour pouvoir travailler. Je pensais pas qu'ils en auraient été capables. Et vraiment, dès les premiers matchs, je me suis dit, oui, c'est pas si performant que ça, mais ça tient la route et ça tient autant la route qu'en 2022. Je suis absolument d'accord avec vous. C'est un truc de dingue. C'est Benjamin Button, Léo Messi. On a l'impression qu'il rajeunit. Le mec, il est de plus en plus fort. C'est un truc de dingue.
8 buts.
Ouais. Et il loupe 2 pénaltys. Hein. Donc l'histoire aurait peut-être été différente s'il avait marqué ce pénalty. Il aurait égalisé contre l'Égypte et ça aurait peut-être différent. Et c'est vrai que, somme toute, sur les 90 minutes, l'Argentine a tenu le ballon, a été plus performant que l'Égypte, qui a joué notamment en contre-attaque. Mais c'est l'Égypte qui a perdu ce match-là. L'Égypte a perdu ce match-là.
Donc tu donnes la victoire à Soulé, j'ai l'impression.
Non. Je donne un avantage quand même très fin à Jérôme et à Eric, parce que je pense sincèrement que cette solidarité-là et plus le talent du génie Messi peut faire la différence contre n'importe quelle équipe.
Ils ont d'autres talents quand
même. Oui, puis ils ont la
et quand aussi, tu vois,
c'est toi le génie, Francky.
Quand tu vois le centre de Lautaro Martinez sur Enzo Fernandez, c'est pure classe, quoi. C'est extraordinaire. C'est déposé, quoi. Donc il y a de la qualité. Maintenant, encore une fois, je pense que si on a cette revanche que tout le monde souhaite contre la France, si la France elle est à 100%, l'Argentine n'existe pas.
Donc ça, on le souhaite. Merci Francky.
Benoît, je vais acheter des scriptures, là. Je vais
acheter. Bravo Francky. Tu vas acheter. Ça y est, c'est bon. Au moins, t'aurais pu être baissé et à faire tes lacets, Eric. Tu les mettras direct comme Francky.
J'aurais pu me baisser, moi.
Voilà.
Francky reste avec nous, avec Souley Diawara, avec Jérôme Bretagne, avec Eric Dimeco. Dans un instant, on file au Maroc. Retrouvez Younis Abdelhamid, le capitaine historique du Stade de Reims, ex-international marocain qui joue à Rabat aujourd'hui. Il va nous raconter la ferveur au Maroc à la veille de ce quart de finale de Coupe du Monde. À tout de suite sur RMC.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Oh, l'égalisation marocaine, il part dans tous les sens le match, c'est Ismaël Saïbari, voilà, c'est le premier joueur africain à marquer dans les 3 matchs de poule d'une Coupe du Monde.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h47 sur RMC, on est là, on est bien dans Roten sans flamme, on finit la première heure avec Franck Leboeuf, avec Eric Dimeco, avec Souley Diawara et avec Benoît Boutron après 19h. Vous inquiétez pas, on est de retour avec Nasser Larguette qui sera là pour parler du Maroc. Mais on va continuer à parler du Maroc avec le Allo Jérôme.
Et on va même filer au Maroc tout de suite pour l'Allo Jérôme, c'est parti.
RMC, Roten sans flamme.
Les gosses de Chabalera.
Il arrive lancé. Younis Abdelhamid, en bon capitaine, en guide.
Hello Jérôme.
Et oui, il est là. Le capitaine historique du Stade de Reims, aujourd'hui joueur du Far Rabat, ex-international marocain, Younis Abdelhamid, qu'on est ravi d'accueillir dans Roten sans flamme, Jérôme.
Ouais, salut Younis.
Salut Jérôme, salut à tous.
Salut Younis.
Tu vas bien ?
Salut.
Ça va très bien, merci. Ça va très bien, et vous ?
Bah écoute, on est en forme, t'es pas trop tendu, la pression monte.
Non, la pression monte, mais c'est l'excitation. On va dire que tout le pays attend ce match. On va dire le remake de 2022, donc c'est une bonne chose, tout le monde attend ce match et on verra que le meilleur gagne.
Oh ben, si c'est le remake de 2022, on te remercie, ça veut dire qu'on va gagner. Donc, alors, t'as déjà anticipé la défaite.
Non, pas la défaite, mais par rapport à l'affiche, on va dire que c'est une petite revanche. Après, c'est pas la même équipe du Maroc qui aura en face de la France. Bon, la France aussi a changé, mais je pense qu'on est beaucoup plus armés et beaucoup plus fort qu'en 2022. Donc, on y croit beaucoup plus.
Younis, toi, t'es en plein cœur de la capitale marocaine. Est-ce que tu peux nous raconter la ferveur qui règne là-bas, justement? Est-ce qu'on commence à y croire? Est-ce qu'on touche du doigt le rêve de devenir un jour champion du monde?
Ben, en tout cas, c'est l'ambition. C'est l'ambition de la Fédé et du groupe, du coach et des joueurs. Je pense qu'ils s'en cachent pas. Et au Maroc aussi, on voit tous les progrès qu'il y a dans le football marocain à travers les résultats de toutes nos sélections. Et donc, je pense qu'on est parti là-bas avec beaucoup de confiance, avec beaucoup d'ambition. Et bien sûr, on y rêve, tout le monde. De toute façon, c'est obligé avec le travail qui est fait. On est obligé d'y croire. Après, voilà, ils ont pris les matchs les uns après les autres jusqu'à présent. Et je pense qu'ils vont préparer ce match de la même manière. Et voilà, tout le peuple est derrière eux. Et on vit chaque match, tout le pays vit chaque match avec beaucoup d'ambition, beaucoup d'excitation, beaucoup d'intensité dans les rues. De joie et pourvu que ça dure.
On a senti un peu de tension liée au match 2022 en conférence de presse. Bon, ça restait amical, hein. On a senti que les journalistes marocains voulaient poser pas mal de questions à Didier Deschamps. C'est vraiment perçu comme ça, on a envie de prendre une revanche et on a ce sentiment d'inachevé par rapport à la demi de 2022.
Moi, je pense qu'en 2022, quand on se retrouve en demi-finale, c'est la surprise, on va pas se mentir.
C'est personne la première fois pour la nation africaine à l'époque.
C'était la première fois, donc c'était voilà, il y avait beaucoup d'excitation et on se dit qu'est-ce qu'on fait là, voilà, est-ce qu'on est en train de rêver ou c'est réel? Et mais maintenant, après, depuis 2022, il y a eu un déclic dans le football marocain qui fait que toutes les sélections, tout le monde a pris confiance dans le travail qui est effectué. Les résultats continuent à être positif et donc c'est dans ce chemin-là que c'est avec cette ambition-là que le pays est parti à la Coupe du Monde avec la volonté de faire quelque chose dans cette Coupe du Monde et pas seulement passer les poules, pas seulement arriver en 16e ou en 8e et donc voilà, je pense qu'on est beaucoup plus serein au Maroc, beaucoup plus serein au sein de la sélection par rapport à cette affiche-là qu'en 2022.
Moi, j'ai vu cette ferveur un peu partout, un peu sur les réseaux, partout. Et j'ai trouvé ça magnifique, cette diaspora marocaine qui est derrière son équipe. J'ai vu aussi que je crois que c'est le roi qui a affrété 12 avions aux supporters marocains pour qu'ils puissent aller supporter leur équipe nationale. Et enfin, j'ai trouvé ça juste magnifique. Je pense que ça va être une bonne ambiance et je pense qu'au match à Boston, il y aura beaucoup plus de Marocains que de Français, non?
Ben on l'espère. On a pu le voir dans les précédentes Coupes du Monde en Russie, au Qatar, les Marocains se mobilisent et font les déplacements. Et moi, je croise beaucoup de personnes à Rabat qui m'ont dit, je suis parti voir le match contre le Brésil, je suis parti voir le match contre l'Écosse, je suis revenu. Il y a des enfants de l'école de mon fils qui ont loupé la dernière semaine pour aller au Mexique. Donc c'est vraiment énorme et les Marocains vivent à travers le foot. Tout le pays vit à travers le foot et tous les efforts sont faits pour que les gens puissent se déplacer et ça fait partie du travail effectué par la fédération et par le royaume.
Ah ouais. Younis, par rapport à 2022, je te chambrerai tout à l'heure sur le remake forcément, mais on sent quand même, du moins moi je sens que cette équipe elle a pris de l'expérience parce que ça fait plusieurs années qu'elle joue ensemble, même si c'est un autre sélectionneur aujourd'hui, mais qui est dans la continuité de ce que faisait admirablement bien Regragui. Est-ce que tu trouves, toi, que cette équipe, comme moi, elle est plus forte aujourd'hui et elle a d'autant plus de chances de battre cette équipe de France?
Bien sûr, cette équipe, elle est plus forte. Et après, on a une très, très belle génération des joueurs qui ont l'habitude d'être ensemble depuis peut-être environ 4-5 ans, qui ont gagné la Coupe d'Afrique U23, certains champions du monde U20. Qui ont fait toutes leurs classes ensemble en sélection marocaine dans U18, U17. Donc c'est un mix de tout, avec l'ossature aussi de 2022, avec Ounahi, Yacine et Achraf Mazraoui qui étaient là aussi en 2022. Donc il y a un beau mélange entre deux, trois générations qui est plein de confiance, plein d'ambition et aujourd'hui on est beaucoup plus armés qu'en 2022. Ça c'est clair et net.
Eh oui.
Et Younis, merci beaucoup d'être venu dans Rotten sans flamme. Toujours un plaisir de t'entendre.
Ouais, Younis. Et puis
bon match demain surtout. Régale-toi.
Tu vas arrêter quand de jouer, Younis?
Bientôt, très très vite.
Bon,
grande carrière. Bravo, Younis.
Bon, écoute, en tout cas, merci, bravo pour l'ensemble de ta carrière, hein, allez, durer comme ça longtemps. Chapeau. Et puis, je te dis.
Et tu reviens quand tu veux.
Dès que t'arrêtes, tu viens nous rejoindre dans Rotten sans flamme. Ça sera avec grand plaisir.
Ah ouais.
Avec grand plaisir. Franchement, c'est très gentil et ben, je vous le ferai savoir avec plaisir.
Allez,
on attend le match demain.
Au revoir. Allez, bye bye.
Salut Younes. À bientôt. Merci. Bon match.
Au revoir.
Avant de remercier notre ami Francky Leboeuf qui était avec nous depuis 18h, Francky, bah ton avis sur cette sélection marocaine, je l'ai dit, tu regardes tous les matchs, est-ce que tu es bluffé, impressionné par le Maroc?
Bluffé, non, mais assez impressionné. Beaucoup de respect parce qu'il y a vraiment beaucoup de qualités. Ce qu'a fait Saïbari, notamment avant de se blesser, était assez exceptionnel, marqué sur les trois matchs de poule, ça s'était jamais arrivé. Le jeune Bouadi, qui a fait toutes ses classes en France avec l'équipe nationale aussi, qui rejoint l'équipe du Maroc, montre tout son talent. Bien sûr, il ne faut pas oublier Hakimi et le reste de l'équipe. Je trouve qu'il y a une vraie progression. Il y a le droit d'être ambitieux et motivé pour cette Coupe du Monde parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour embêter l'équipe de France. Je pense qu'ils savent défendre, ils savent être patients, ils savent jouer en contre-attaque, ils ont les qualités pour finir leurs actions. Donc il va falloir faire très très attention. Encore une fois, moi je dis, si la France joue à 100%, il n'y a personne qui peut les toucher. Mais le football est fait de détails, il faut un peu de chance aussi. Donc on va souhaiter bonne chance aux Marocains pour être fair play, mais toujours en pensant que la France doit gagner puisque nous sommes français.
Hey, Francky, c'était un plaisir de te recevoir dans
Merci Francky en tout cas.
Merci beaucoup.
C'est un vrai plaisir les copains.
Et tu reviens quand tu veux toi aussi.
Ouais. Je vous embrasse très fort. À bientôt.
Salut Francky.
C'est quoi la prochaine pièce, Francky? La promo, c'est une promo.
Je finis la pièce, le tournoi, la tournée, coup de bluff au cabaret jusqu'en décembre là, 2026. Et puis après, on va voir. J'ai des petits projets pour septembre. Il y a plein de choses qui arrivent, mais pour l'instant, c'est pas encore finalisé. Donc on va rien dire. Mais je te remercie, mon Jérôme, d'être venu me voir. C'était un vrai plaisir quand tu étais venu.
Je te le dis à chaque fois. Déjà, merci pour l'accueil et surtout, je le dis pas parce que c'est toi, mais franchement, tu es excellent.
Voilà. Ah oui, il a trouvé sa voix, Francky. Et qu'est-ce qu'on fait pour la 208 d'Eric alors? Qu'est-ce qu'on fait pour Eric? On va en trouver une solution?
Écoute, bien sûr, qui m'appelle. Je vais on va trouver un truc.
Mais on va se débrouiller.
Je vous embrasse tous. Ciao, ciao.
Salut Francky, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Salut bisous.
Dans un instant, Rotten se chauffe. Est-ce que le Maroc est un candidat crédible à la victoire finale? On sera avec l'architecte du football marocain, de tout ce qui s'est passé, ancien DTN, Nasser Larguette, un des mentors de Souleymane Diawara.
Ah, il l'a avec eu, nous. C'est vrai, il l'a eu. Mais moi, comme moi, à Caen.
Et oui, c'est vrai.
Il était à Caen, au centre de formation.
Et j'aurai une grosse info concernant le mercato de l'OM à vous donner. Restez avec nous.
Oh là,
tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h, Rotten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Vous avez aimé la première partie? Alors écoutez tout de suite la deuxième partie de Rotten sans flamme.